chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes qui nous feront voyager de Saint-Michel à Saint-Jean-Port-Joli. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros anonymes. Mon nom est Daniel Lantaigne et j'ai le grand plaisir de recevoir un organisme qui s'appelle la Bibliothèque des jeunes de Montréal. Bon, j'ai dit que je recevais un organisme, ça se dit pas vraiment. Je reçois plutôt deux invités extraordinaires qui travaillent à la fois directement dans la bibliothèque et sur le conseil d'administration. Donc, on a en studio Laurence Savage-Duguay, bonjour.
Bonjour.
Qui est bibliothécaire en chef, c'est bien ça?
Exactement.
Excellent, ben enchanté. Et on a également Bailey Levin, qui est présidente du conseil d'administration. Bonjour.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Merci à vous. Merci d'être présente aujourd'hui. Je vais vous avouer que je ne connaissais pas la Bibliothèque des jeunes de Montréal. Dans ma tête, il y avait des bibliothèques dans des arrondissements, un étage pour les jeunes, un étage pour peut-être les jeunes de cœur, mais qui vont lire d'autres choses. Alors, la Bibliothèque des jeunes de Montréal, j'ai goût qu'on commence par comprendre déjà ce que c'est, parce que quand je me suis rendu sur votre site web, j'ai vu toute l'histoire, ça date pas d'hier, ça a bougé, il y a eu beaucoup de succursales, disons, à Montréal, et puis là, je pense que vous êtes bien atterri dans Saint-Michel, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Ben, donc, allez-y, justement, parlez-nous de cette bibliothèque-là.
Oui, ben en fait, il y a beaucoup de gens là, qui pensent qu'on fait partie du réseau municipal, mais non, la Bibliothèque des jeunes de Montréal, c'est un OBNL indépendant, donc on est une petite bibliothèque indépendante seulement pour les enfants de 0 à 17 ans. Et puis, oui, la Bibliothèque des jeunes a été fondée en 1929, donc c'est très ancien.
Vous n'étiez pas là à la fondation?
Moi, non. J'étais pas présente à la fondation, non. Je pense que ma grand-mère n'était pas née encore. Mais donc, le but un peu, l'idée, c'était d'offrir l'accès à des bibliothèques dans des secteurs de la ville où il n'y avait pas de bibliothèque publique pour les enfants ou pas de service pour enfants. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. Au fil des temps, on a eu plusieurs succursales. Là, maintenant, on est dans Saint-Michel, où justement la bibliothèque municipale est comme la plus proche, est à plus d'un kilomètre. Donc, c'est pas facile pour un enfant de se rendre après l'école. Donc, c'est ça le service qu'on offre.
Effectivement. Fait que dans Saint-Michel, pour les gens qui connaissent un peu plus le quartier, vous êtes dans le centre René Goupil, c'est bien ça?
Dans le centre de loisirs René Goupil, oui.
Donc, 42e puis 9, à peu près.
Exactement.
Bon, j'ai fait mes recherches. Et je comprends très, très bien l'historique de ce qui a créé et ce qui a amené à créer cette bibliothèque-là. Aujourd'hui, comment vous diriez qu'elle se distingue des autres bibliothèques, par exemple, des bibliothèques municipales qui font partie du réseau? En quoi il y a une différence pour un jeune qui rentre chez vous?
Oui, bien, premièrement, comme je mentionnais, on essaie quand même de ne pas s'implanter trop près des bibliothèques municipales parce que ça vient un peu, là, on ne veut pas faire de compétition non plus. Donc, on est dans des quartiers habituellement où l'accès à des bibliothèques est plus difficile. Puis, la mission de l'organisme a évolué avec le temps, fait qu'avec la prolifération des bibliothèques de la ville, on a une mission qui reste une mission de bibliothèque, mais de plus en plus éducative aussi, où justement, le fait d'être un petit organisme indépendant, ça nous donne beaucoup de liberté pour faire des projets spéciaux, essayer de donner des opportunités d'éducation dans des quartiers. On va souvent dans des quartiers qui sont un petit peu plus défavorisés, fait que donner des opportunités d'éducation qui ne sont pas nécessairement disponibles pour ces enfants-là. Puis vraiment, pour être un local qui se rapproche un peu d'une maison des jeunes, là, où est-ce que nous, on est une bibliothèque... c'est pas silencieux dans la bibliothèque, mettons. Là. Il y a du jeu, il y a des activités à tous les soirs.
Les gens, on doit te parler dans votre bibliothèque. ça a changé, Je me rappelle quand j'étais petit, pour moi, la bibliothèque, c'était à la limite uniquement un lieu transactionnel. J'avais besoin d'un livre ou je voulais en emprunter un, j'allais le chercher, je repartais chez nous, je le ramenais avant la petite date qui était tampée sur le carton. Clairement, ça ne me rajeunit pas, on n'est plus là. Les bibliothèques, incluant la bibliothèque des jeunes de Montréal, je comprends qu'on est dans un environnement où, ben justement, ça devient un milieu de vie. Vous disiez, pas loin d'une maison des jeunes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe d'autre qu'évidemment le livre, qui j'imagine est quand même un point assez central. Les jeunes peuvent expérimenter quoi dans cette bibliothèque-là?
Oui, ben nous, dans le fond, c'est ça. On a dans notre petit local, on est ouvert à tous les soirs de semaine jusqu'à 18h, sauf le lundi. Mais puis donc, on a des ordinateurs, on a des jeux de société. Souvent, les soirs réguliers de semaine, les jeunes viennent. Ils jouent à l'ordinateur, là, il y a des rotations. Puis nous, on joue à des jeux de société avec les enfants. On peut un peu les aider dans leurs devoirs. Puis on a des soirées avec des activités un petit peu plus spécifiques. Comme par exemple, on a un club scientifique. Donc, on fait des expériences avec les enfants. Oh. On fait des bricolages, des choses comme ça. Ça, c'est une soirée normale.
Ben quand même. Quand même, l'offre est vraiment loin de ce que je peux penser d'une bibliothèque. Ou en tout cas, du moins, ce que je pensais à l'époque de ce qu'était une bibliothèque. Dites-moi, Bailey, vous êtes présidente du conseil d'administration.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a interpellé pour se joindre à ce conseil d'administration-là?
Ah, ben, j'adore la cause, en premier lieu. J'ai toujours adoré lire et de m'épanouir à travers l'éducation en général. Puis, tu sais, une autre chose qui distingue la bibliothèque d'une bibliothèque, disons, traditionnelle, c'est que, oui, on a plein de livres, oui, on a plein d'activités, mais notre but, c'est vraiment d'aider les jeunes à trouver quelque chose qui s'intéresse dans le monde puis s'épanouir à partir de ça. Donc, apprendre à jouer, tu sais, s'intéresser dans la science ou dans le physique ou dans l'art ou dans l'histoire à partir d'un BD ou un jeu de société. Donc, moi, j'ai toujours eu cette réflexe-là dans ma propre vie. J'ai grandi en toujours lisant des romans et je trouve que c'est super important. On joue également un rôle d'égalité dans la société, si je peux bien le dire. Saint-Michel, c'est un quartier moins nanti. On a beaucoup de familles monoparentales. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On ne sait pas d'où viendra le prochain Einstein. Il pourrait très bien venir de Saint-Michel. Il faut juste qu'on lui donne ou qu'on la donne l'opportunité de s'intéresser à quelque chose de plus grand que ce qu'il apprend à l'école, mettons. Pas que les écoles ne sont pas importantes. Évidemment, c'est nos partenaires clés dans la scolarisation de la société, mais encore, jouer et apprendre en jouant, c'est super important pour nous.
Ben oui, certainement. J'en doute pas. Puis ça permet que le livre devienne un instrument à travers tout ça. Puis ça vient rééquilibrer probablement là, une fracture qu'il pourrait avoir soit en différents quartiers ou même dans des familles ou avec des nouveaux arrivants aussi. Bon, c'est pas tout le monde dans la famille qui parle le français lorsqu'ils arrivent avec le nombre de classes d'accueil, entre autres, que dans Saint-Michel, Montréal-Nord et tout le coin.
Exactement.
Pour les gens qui nous écoutent et se demandent, ça fait quoi une présidente de conseil d'administration d'une bibliothèque des jeunes de Montréal? Parce que, bon, on sait bien que chaque OBNL, par défaut, un conseil d'administration, donc il y a de la gouvernance, on s'assure évidemment qu'on prend les meilleurs choix, les meilleures décisions, on gère bien les finances. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier lorsqu'on siège sur un CA d'une bibliothèque?
Ben, c'est tout ce que vous venez de décrire, c'est sûr. Laurence et moi travaillons étroitement ensemble pour... moi, j'ai pas de compétences en bibliothéconomie, donc je suis vraiment là pour l'épauler dans sa travail, dans son quotidien. Tu sais, oui, la gouvernance, oui, les finances, le fundraising, la stratégie générale, mais c'est Laurence, notre capitaine de bord.
Ah, voilà. Et une bibliothécaire en chef, je trouve ça extraordinaire comme titre, j'aime vraiment ça. En gros, vous faites quoi, vous, votre quotidien? Parce que vous êtes sûrement une équipe aussi, vous êtes probablement pas toute seule.
Oui, non, c'est ça. On est une équipe, mais on est quand même une petite équipe. Fait qu'à la bibliothèque, on est 3 bibliothécaires permanentes. Puis on a, là, après ça, des animatrices, des aides bibliothécaires qui viennent nous aider, des stagiaires. Mais donc, 3 bibliothécaires. Puis on travaille les 3 vraiment en collaboration. Donc moi, j'ai le titre de bibliothécaire en chef, mais vraiment, c'est de la collaboration. Puis on fait à peu près tout. Donc comme je disais, vu qu'on n'est pas dans le réseau, on a beaucoup de liberté. Fait qu'on décide quel livre acheter, on fait les commandes, on décide quel programme on va faire. On prépare donc la programmation, les relations avec les partenaires. Puis moi, mon rôle, c'est un peu comme de chapeauter tout ça, mais il y a aussi vraiment beaucoup de travail qui se fait sur le terrain. Donc même si j'ai un titre de chef, il faut quand même que... une grosse partie de mon travail, c'est de jouer avec les enfants, d'animer des activités, puis...
Même si vous avez un titre de chef, vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire, dans le centre des loisirs, René Goupil. Vous êtes dans le terrain.
On est sur le terrain quand même.
Voilà. J'ai remarqué que votre nom avait un nom bilingue, donc j'imagine que vous avez une offre de livres peut-être aussi en anglais ou
oui.
C'est l'historique qui traîne depuis le début des années 1900? Là.
Non, bien, du fait de l'historique, effectivement, là, comme on a un historique qui était plus même anglophone à la base, fait que c'est vraiment très bilingue. Mais puis jusqu'à récemment, on avait une succursale dans le quartier Peter McGill qui est beaucoup anglophone, puis on offre encore des services là-bas des fois. Mais on s'assure de maintenir une offre de livres bilingues et d'activités bilingues à la bibliothèque. Honnêtement, Saint-Michel, je vous dirais, là, notre clientèle est 90% francophone, mais on a quand même quelques clients anglophones, puis aussi des jeunes qui veulent apprendre à parler anglais, des familles qui veulent emprunter des livres en anglais pour apprendre. Donc,
Ah, ben c'est extraordinaire. Donc, ça permet de faciliter, en tout cas, ça enlève les barrières à l'entrée.
Oui.
Saint-Michel est un quartier qui change, qui évolue. On a reçu dans la première saison le Centre Lassalien, avec lequel on a eu la chance de parler pour avoir un bon portrait aussi de la réalité de Saint-Michel. Qu'est-ce que vous avez vu dans les dernières années comme changement? Est-ce que les jeunes, il y a quelques années, c'est les mêmes jeunes qu'aujourd'hui? Puis je disais, des fois, c'est pas propre à Saint-Michel, là, les jeunes évoluent, les intérêts changent aussi avec le temps. Comment est-ce que vous naviguez à travers ces différents changements-là qui doivent être quand même prenants? Là?
Oui, bien, en fait, moi, ça fait pas non plus tellement longtemps que je suis là, mais à la bibliothèque, ce qu'on voit, c'est que, justement, il y a des jeunes qu'on perd un peu avec le temps. Puis, tu sais, c'est normal, là, les adolescents sont pas toujours super intéressés à venir dans une bibliothèque jouer avec une bibliothécaire à des jeux de société. Fait que c'est sûr qu'à partir de 13-14 ans, des fois, ça peut être plus difficile. Mais on a, justement, quand même beaucoup d'enfants, de jeunes qui restent à la bibliothèque, même en vieillissant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pour les adolescents, on fait plus des initiatives de comment entrer sur le domaine de l'emploi. Fait que quand on embauche, on essaie d'embaucher des jeunes qui venaient à la bibliothèque avant. Mais on fait des stages avec ou du bénévolat pour les adolescents qui veulent se faire de l'expérience. Puis les enfants qui viennent à la bibliothèque, on a toujours, bon, ça, il y a une rotation, mais on a comme une espèce de petit noyau d'à peu près une quinzaine d'enfants qu'on voit presque à tous les jours. Puis ces enfants-là, souvent, ils gardent un contact au fil des années. Fait que ça, c'est vraiment valorisant.
Vraiment, c'est précieux. Puis avez-vous des changements de votre œil de présidente du conseil?
Oui, bien peut-être plus dans l'offre de services que nous avons avec le temps. Et c'est pas unique à nous nécessairement, mais la valorisation des BD, par exemple, l'utilisation de la technologie, les programmes STEM et STIAM pour intégrer l'intelligence artificielle également. Tout ça qui n'était pas vraiment au rendez-vous il y a peut-être 10 ans, c'est vraiment quelque chose auquel intéressent les jeunes, puis on essaie vraiment de l'intégrer dans notre programmation à tous les jours.
Oui. Vous avez fait référence à ce terme, là, puis je pense que c'est science, technologie, engineering pour ingénieurs et mathématiques, c'est ça? Hein?
Oui.
Parfait. Juste pour les gens, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'emphase mis là-dessus, notamment les femmes dans ces domaines-là, pour siéger sur un conseil d'un musée, notamment où ces notions-là sont hyper importantes. Saint-Michel est un quartier qui bouge énormément. La littérature aussi a dû changer. Ce que je lisais à l'époque, probablement pas ce que je lis aujourd'hui. Mon fils de bientôt 7 ans ne trippe que sur des mangas. On essaie de trouver des mangas d'un âge approprié, ce qui est des fois un petit défi. Je trouve ça fascinant de voir aussi l'histoire de votre bibliothèque, parce que je pense que c'était la première bibliothèque pour enfants gratuite pour les enfants anglophones et francophones à Montréal au moment où ça a été créé. Donc, une mission extraordinaire. Si vous voulez bien, on prend une courte pause. On va écouter un petit extrait d'ailleurs qui parle de votre bibliothèque. Tiens donc, puis on continue la conversation après.
L'une des plus anciennes bibliothèques financées par le privé à Montréal, la Bibliothèque des jeunes de Montréal travaille à développer le savoir, encourager l'imagination et créer des liens entre les enfants, les parents et leur communauté. Située dans le centre de loisirs René Goupil, la bibliothèque est avant tout un milieu de vie chaleureux, dynamique et lumineux où les jeunes et leurs familles se sentent bien. En plus du prêt de livres et de recommandations de lecture personnalisées, la bibliothèque offre du soutien à la recherche et met à la disposition des jeunes des ordinateurs, des jeux et des jouets. En termes d'activité, les heures du compte permettent de stimuler l'imagination et le langage. Chaque semaine, nos animateurs offrent des ateliers inventifs de sciences et d'échecs. Des tournois d'échecs saisonniers viennent couronner les efforts des jeunes. S'ajoute à cela des soirées de jeux vidéo et de jeux de société, combinant plaisir et apprentissage du vivre ensemble. Durant la belle saison, les livres sont transportés au parc et les jeunes peuvent lire sous les arbres. Un club de lecture leur permet de découvrir ou renforcer leur plaisir de lire et de se rassembler autour d'activités thématiques stimulantes. Chaque saison est ponctuée d'événements et d'activités spéciales, tels les jeux d'évasion qui demandent aux jeunes de travailler en équipe pour résoudre des énigmes complexes en un temps restreint. La Bibliothèque des jeunes de Montréal aspire à procurer aux jeunes et à leurs familles les éléments de base pour les inspirer à apprendre tout au long de leur vie.
Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Laurence Savage-Duguay et Bailey Levin de Bibliothèque des Jeunes de Montréal. Alors, on vient d'entendre un petit extrait qui nous présente bien ce que fait la bibliothèque. Bibliothèque qui est extraordinaire, rappelons-nous-le, qui est située dans le quartier Saint-Michel. Vous avez parlé, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que votre bibliothèque, ben, elle ne fait pas partie du réseau des bibliothèques. Vous avez un peu plus, disons, de marge de manœuvre dans vos choix, notamment vos choix littéraires. Quand vous opérez cette bibliothèque-là, quelle est la différence entre en opérer une d'une ville, d'un arrondissement, puis opérer une bibliothèque qui est un OBNL, j'imagine, qui est un petit bout qui est financier, mais outre ça, est-ce qu'il y a d'autres différences?
Oui, bien c'est ça. Comme je mentionnais, vu à la ville, il y a beaucoup de... Puis là, j'ai dit ça, j'ai jamais travaillé à la ville de Montréal, mais il y a beaucoup de bureaucratie, je dirais. Fait qu'il y a des, t'sais, il y a des protocoles, les décisions doivent se prendre, faut que ça passe par plusieurs instances pour que ça soit approuvé. Puis des fois, justement, comme dans les programmes ou l'acquisition de livres, il y a des politiques un peu plus strictes qui font en sorte que si un livre est acheté, ils doivent acheter tel nombre de copies en tel format, l'avoir dans un nombre X de bibliothèques, tandis que nous, on a vraiment plus de liberté à ce niveau-là. Fait que, par exemple, notre achat de livres, c'est nous qui le faisons un peu à la demande des jeunes. Donc, si les enfants viennent nous voir, est-ce que vous avez ce livre-là? Non, mais on va l'acheter, puis on le commande, puis il s'en vient. Fait que c'est comme ça beaucoup qu'on fait l'acquisition de matériel parce que c'est important pour nous d'acheter des choses que les jeunes vont lire. Puis justement, l'année dernière, on a fait avec le Montréal interculturel, on a fait un programme spécial pour diversifier notre offre de services et notre collection. Donc, on a invité une librairie, la librairie Le Guélian, qui est une librairie féministe, qui sont venues nous ont présenté plein de livres diversifiés, puis les ont présentés aux enfants. Puis finalement, à la fin, on les a tous achetés parce qu'on les trouvait intéressants. Fait que c'est ça qui est le fun, un peu, d'avoir cette liberté-là, puis de pouvoir faire des activités qui sortent vraiment du cadre des bibliothèques. Fait que c'est sûr que nous, notre mission reste éducative, mais des fois, les enfants, ce qu'ils veulent faire, par exemple, à l'Halloween, c'est une maison hantée. Fait que on a fait une maison hantée dans la bibliothèque l'Halloween dernier. T'sais, c'est vraiment des trucs qu'on peut faire qui ne seraient pas nécessairement possibles à la ville.
Donc, ça permet aux jeunes de façonner un peu la bibliothèque dont ils souhaitent avoir, d'une certaine façon.
Exactement, oui. On travaille pour les jeunes et on travaille un peu par les jeunes. Fait qu'on essaie vraiment beaucoup dans l'élaboration de nos programmes de faire ça en collaboration avec les familles. On prend les commentaires, on demande aux enfants des suggestions. Puis, ils sont pas trop gênés, là, habituellement. Fait que les enfants, fait qu'ils n'hésitent pas là, à nous dire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent voir.
Puis, votre caractère assez unique fait en sorte que vous devez avoir probablement un peu peut-être des fois la rétroaction des parents ou des familles. C'est quoi les commentaires qu'ils vous apportent?
Oui, on essaie de récolter des commentaires le plus possible. C'est très valorisant, là. C'est très valorisant comme travail, de travailler dans le communautaire, de travailler étroitement avec les familles. On est un peu comme on a mentionné, là, on est un peu un milieu de vie pour beaucoup de familles. On a des familles qui viennent à la bibliothèque, des enfants qui viennent à la bibliothèque presque tous les jours. Il y en a qui viennent tous les samedis. Il y a des liens qui se sont créés, donc beaucoup d'amitiés en fait qui se sont créées entre les enfants de la bibliothèque qui apprennent à se connaître puis finalement deviennent amis. Là, les parents deviennent amis parce qu'ils viennent à la bibliothèque ensemble. Donc, comme récemment, on a appris qu'on allait devoir déménager puis ça a créé un peu d'anxiété, disons, dans les familles du quartier. Puis là, on a eu beaucoup de familles qui sont venues nous voir pour nous dire comme la bibliothèque, pour moi, c'est un peu j'ai juste le mot en anglais là, qui était « lifesaver », mais c'est un peu comme un...
Vous êtes la bouée de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, voilà. Exactement, pour moi et mes enfants. Beaucoup de gens qui nous ont dit que, justement, leurs enfants, il y avait de la difficulté à se faire des amis à l'école, se sont fait des amis à la bibliothèque, fait que ça, c'est...
C'est précieux, là, quand même. Au-delà de développer un intérêt à la lecture, ça va vraiment plus loin que ça, là, la bibliothèque, bibliothèque des Jeunes de Montréal. Je parlais de la différence entre une bibliothèque finalement municipale ou rattachée à un réseau et la bibliothèque dans une formule d'OBNL. Le financement ne doit pas être le même, j'imagine, parce que une bibliothèque municipale, il y a un budget décidé à l'arrondissement, puis tout ça est réparti. Quand une bibliothèque est un OBNL, vous avez certainement des partenaires publics ou parapublics qui vous aident à financer une partie. Est-ce que tout ça réussit... je vais refaire ma phrase, elle va être plus belle, je suis sûr. Est-ce que tout ça réussit à boucler votre budget à la fin de l'année ou vous devez vous tourner vers d'autres sources de financement?
Non, en fait, je sais pas...
Non, on est financé dans la grande majorité par des donateurs privés, soit des fondations, des entreprises ou des individus. 75-80% de notre budget vient du levée de fonds privé. Oui, on a un appui de la ville et on est content de l'avoir, c'est sûr. Mais non, la grande, grande majorité de nos fonds sont privés. Et on est très choyés d'avoir une base de donateurs loyaux qui nous soutient depuis plusieurs années. Tu sais, on veut toujours accueillir plus de monde dans la bibliothèque puis agrandir nos services, mais c'est clairement quelque chose qui doit être payé de quelque part. Donc, le plus de financement qu'on reçoit du privé, le mieux qu'on peut faire et le plus qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. Il y a toute une comité de levée de fonds sur le conseil. On fait une campagne annuelle. Dans les temps pré-COVID, on faisait également des événements de levée de fonds dans la communauté. Moins maintenant, on se replie plus sur les donations individuelles et de dons majeurs, si je peux le dire. On a des très bons partenaires de fondation philanthropique à Montréal et on est très, très joyeux de les avoir.
Non, oui, c'est extraordinaire parce que mon hypothèse, puis corrigez-moi si je me trompe, j'espère que je me trompe, ben, on se poserait la question de dire, ben, dans le quartier Saint-Michel, qui a les moyens de faire un don à la bibliothèque des jeunes de Montréal quand on sait déjà que c'est pas le quartier? On n'est pas dans Westmount, là. Alors, vos donateurs, outre les fondations philanthropiques, ça ressemble. C'est quoi le profil de vos donateurs individuels?
Bien, parce que la bibliothèque a une belle histoire de plus de 90 ans. On a déjà opéré dans, comme Laurence disait, dans le Peter McGill, qui est plus au centre-ville. On était aussi à la Petite-Bourgogne. On était à Montréal-Ouest. On était vraiment un peu partout dans la ville au fil des ans. Et nos donateurs sont aussi éparpillés un peu tout dans la ville. On a une très généreuse base de donateurs à Westmount, à Outremont également, au centre-ville, ici et là. Le réseau du conseil, on fait beaucoup ça aussi. On met au profit tous nos contacts professionnels et personnels pour nous joindre dans cette belle cause. Donc, c'est ça. C'est très, très varié. Et tout comme un don de 10 $ par année nous aide à acheter des livres, des dons de 1 000 ou de 10 000 $ nous permet aussi de faire des choses extraordinaires. Donc, les plus petits dons, les plus grands dons sont tous très, très appréciés par notre organisation.
Bien, certainement, on remercie vos fidèles donatrices et donateurs là, qui vous permettent de réaliser votre mission. Et clairement, vous devez accomplir quelque chose d'extraordinaire pour que quelqu'un qui habite dans l'autre bout de la ville ait quand même envie de soutenir votre mission. Oui, il y a eu un historique, il y a eu des succursales à différents endroits, mais quand même de garder ce lien-là, de le maintenir. Alors clairement, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la bibliothèque et clairement, vous savez comment faire la collecte de fonds. deux éléments assez précieux pour une organisation. Vous avez parlé, il y a un déménagement qui s'en vient par la force des choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels vous rêvez ou qui se confirment pour la Bibliothèque des jeunes de Montréal dans votre horizon à court, moyen, long terme?
Oui, ben c'est ça. Là, en 2024, notre gros projet, ça va être le déménagement.
Ce qui n'est pas rien.
Effectivement, non, c'est ça. C'est un gros changement pour nous parce qu'on est dans notre local actuel depuis 2006. Fait que ça fait quand même très longtemps. Là, on doit déménager au centre La Salien. Donc, c'est 3001 rue de Louvain. On reste dans Saint-Michel. C'était important pour nous de rester dans le quartier. Mais c'est sûr que ça nous éloigne un peu des familles là, qu'on a appris à connaître et à aimer. Fait qu'on va... Nos objectifs, c'est de déménager, de peut-être se refaire un peu... avoir une belle bibliothèque, là, donc du mobilier qui est un peu daté, qu'on aimerait remplacer, puis faire l'acquisition de nouveaux des ordinateurs, des trucs un petit peu plus techno pour notre club de sciences. On aimerait beaucoup ça. Puis, en même temps, de trouver un moyen de maintenir une offre de service auprès des familles qu'on connaît, soit en leur permettant de se rendre une fois par semaine, peut-être avec un moyen de transport qu'on organiserait, ou nous, de continuer à aller donner des services là-bas. Ça serait comme notre rêve pour 2024. Puis sinon, dans un futur, nous, on manque pas d'idées et de projets. Donc, si on avait plus de moyens, on voudrait étendre les heures d'ouverture de la bibliothèque, parce que là, c'est sûr qu'à 3 bibliothécaires, on peut pas être ouvert 7 jours sur 7, alors non. Que c'est ce qu'on aimerait. Faire des activités plus à l'extérieur de la bibliothèque, donc hors les murs, aller rencontrer les gens, aller dans les écoles, aller dans différents quartiers de Montréal, parce que bien qu'on est à Saint-Michel puis que c'est notre priorité, la bibliothèque des jeunes, à la base, c'est fondée pour tous les enfants de la ville. Donc, on aimerait ça rendre des services dans d'autres quartiers aussi, comme à Montréal-Nord ou à Pointe-aux-Trembles, où il y a la bibliothèque, il peut être loin aussi pour oui. certains enfants. Puis même ouvrir d'autres succursales là, si c'était possible. Puis après ça, ben là, si on avait... on parle toujours de notre imprimante 3D qu'on va acheter quand on va avoir notre gros don. Donc c'est sûr qu'après ça, on a plein d'idées pour des projets avec les enfants, mais ce sont nos rêves.
Ben, ce sont des rêves que je vous souhaite qu'ils se réalisent certainement. Je pense qu'au bénéfice autant des jeunes, des familles, de la communauté, il y a énormément d'avantages à ce que votre bibliothèque soit en bonne santé. Ça rayonne après ça sur toute la société. On se demande toujours, évidemment, quand on reçoit les organismes, comment on peut vous aider concrètement, comment on peut vous aider sans vous nuire aussi, des fois, c'est la question qu'on se pose. Quelqu'un qui est interpellé par votre cause, qui trouve ça extraordinaire, a le goût de vous soutenir, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est quoi le meilleur moyen aussi de vous aider?
Oui. C'est sûr que le meilleur moyen, c'est par un don à la bibliothèque. Donc, on a un site internet qui est le www.mcl-bgm.ca.
Voilà.
Puis sur notre site, donc les gens peuvent voir, c'est là qu'on affiche toutes nos activités. Fait que si les gens veulent, sont intéressés à participer en fait à nos activités, ça peut nous aider aussi ou à passer le mot, parce que on fait ça bien sûr pour que le plus de familles possible puissent en profiter. Puis souvent, on n'a pas vraiment de limite de gens qui peuvent se présenter. Donc, si les gens veulent faire la promotion, aller sur notre site, aller voir notre calendrier, aller voir notre offre d'activité. On a une activité scientifique avec les Scientifines, qui est un OBNL qui promeut la science auprès des jeunes femmes, ouais. Mais qui vont venir à la bibliothèque le 13 octobre pour donner une activité. On a des contes d'horreur le 25 octobre avec un conteur qui va venir nous raconter des trucs pour l'Halloween. Donc, oui, comme présentez-vous si vous êtes intéressé, appelez-nous, parlez-en. Puis sur notre site, il y a également le formulaire pour faire un don qui est disponible. Fait que les gens peuvent faire un don par le site internet ou nous appeler. Si des fois, là, on a des donateurs, comme on dit, qui sont très loyaux depuis très longtemps, fait que c'est plus difficile de faire un don sur internet, on peut vous aider par téléphone sans problème. Et puis, comme Billy le mentionnait, il n'y a aucun don qui est trop petit. Donc, un livre pour bébé, là, ça coûte moins de 10 $. Avec ça, on peut le donner à une famille, puis ça peut faire une grosse différence. Donc, n'importe quel montant peut nous aider. Puis sinon, nous, on travaille beaucoup avec des fondations aussi. Donc, si justement, il y a des gens qui travaillent pour des fondations ou qui connaissent des fondations qui pourraient être intéressés à nous appuyer, je les invite aussi à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de parler de nos services puis de voir ce qu'on peut faire.
Excellent. Bien, l'appel est lancé. Pour vous joindre par téléphone, c'est le 514-276-7309. Merci beaucoup, Laurence et Bélé. C'est un très grand plaisir. Le temps passe hyper vite. On en a appris beaucoup sur votre organisation qui est extraordinaire. Continuez d'inciter ces jeunes-là à lire et à développer le plaisir de lire, et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme sur les ondes de Canal M. Restez avec nous, on se retrouve très bientôt.